Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'informations. Sommaire, aujourd'hui, les représentants des partis CSSD, ANO et KDU-CSL signent ce lundi l'accord de coalition. Nucléaire et Temelin, la République tchèque a fait parvenir à la Commission européenne une partie des documents relatifs à l'exclusion de Areva. Et le nombre de Tchèques ayant eu recours à la faillite personnelle a augmenté de 13% en 2013. Les représentants de la social-démocratie, du mouvement L'Action des citoyens mécontents et du Parti chrétien-démocrate ont signé ce lundi, en début d'après-midi, à la Chambre des députés, l'accord de coalition négocié entre eux depuis les élections législatives anticipées d'octobre dernier et devant poser les bases de la politique de leur futur gouvernement. L'accord de coalition prévoit, entre autres, l'annulation de certains frais de santé et l'augmentation de certains minima sociaux tels que le salaire minimum ou les retraites. Les impôts ne devrait pas évoluer jusqu'en 2015. Cette coalition gouvernementale tripartite peut compter sur le soutien de 111 députés à la Chambre de base du Parlement, ce qui en compte en intégrité 200. L'Office du commissaire européen au marché intérieur et au service Michel Barnier a déclaré pour l'agence de presse Četeka que la République tchèque a fourni une partie des documents relatifs à l'exclusion de Areva de l'appel d'offres pour l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelin. Selon l'ambassadeur tchèque auprès de l'UE, Martin Povejšil, les autorités nationales ont fait parvenir à la Commission européenne l'intégralité des documents avec lesquels elles peuvent disposer. Le reste relèverait du secret commercial. Au moins de novembre 2013, la Commission a menacé de porter plainte contre la République tchèque si le gouvernement refuse de communiquer à Bruxelles des éléments sur la base desquels Areva a été exclu de l'appel d'offres en 2012. Selon le rapport de suivi du ministère du Développement régional, jusqu'au mois de novembre 2013, les demandeurs des subventions provenant des fonds européens ont obtenu près de 500 milliards de couronnes, soit 10,4 milliards d'euros. Cela représente 61,6% de la somme totale allouée à la République tchèque pour la période entre 2007 et 2013. Entre janvier et début décembre 2013, la valeur des demandes acceptées s'élevait à 3,16 milliards d'euros. Durant toute la période, les autorités tchèques ont déjà donné leur aval à la réalisation de 48 551 projets. Leur mise en place devrait permettre à la République tchèque de puiser 90% de la somme totale de 800 milliards de couronnes disponibles pour le développement structurel et régional du pays. Un nombre record de faillites personnelles a été déclaré en 2013. Les demandes de désendettement de 19 165 personnes ont ainsi été acceptées par les tribunaux. Par rapport à 2012, il s'agit d'une hausse de 13%. Depuis 2008 et l'entrée en vigueur de cette nouvelle option pour des personnes souffrant des dettes, plus de 57 000 procédures de faillite personnelle ont été lancées. Selon les données de Czech Credit Bureau, le nombre des personnes optant pour une faillite personnelle s'accroît de plus en plus lentement. Par ailleurs, le nombre des demandes refusées diminue, ce qui témoigne d'une meilleure capacité des demandeurs de se servir de cet instrument. Seuls 0,4% de demandes ont été rejetées définitivement. En 2013, 2425 faillites personnelles ont été déclarées dans la région de Bohême centrale, ce qui représente le plus grand nombre. Au contraire, à Vysočina, c'était seulement 560 cas. L'Office de régulation bulgare a entamé un contrôle dans la division locale des entreprises tchèques ČEZ et EnergoPro, ainsi que l'antenne autrichienne IVN. La porte-parole de la société énergétique tchèque, Barbora Pulpa-Alonva, a confirmé que le contrôle avait déjà été annoncé au mois de décembre. Selon l'agence de presse ČTK, l'autorité bulgare s'intéresse à la facture de l'électricité que émettent les entreprises tchèques, et cela sous l'impulsion de nombreux citoyens bulgares. Les prix de l'électricité constituent un sujet politiquement sensible en Bulgarie car il représente une grande partie des dépenses des ménages. L'Office de régulation bulgare a procédé à une baisse des prix à deux reprises au cours de l'année 2013. On termine sur un mot de météo. Des belles éclaircies sont à prévoir en Bohême, tandis que le ciel sera couvert en Moravie. Ce jour de mardi, fête des Vilma. Les températures restent élevées pour la saison. À l'est, elles varient entre 5 et 7 degrés. Et quant à l'ouest du pays, elles vont jusqu'à 9 degrés pour les maximales. Lucie Drexelova vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. La suite de notre programme, c'est maintenant avec Pierre Magnan.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à tous, mes chers amis, pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Il faut tout d'abord remercier Lucie Dreselova pour son remarquable bulletin d'information. L'actualité de ce lundi est d'abord marquée par la signature de l'accord de coalition entre les représentants de la social-démocratie, du mouvement de l'action des citoyens mécontents, ANO, et du parti chrétien-démocrate. Un accord qui doit poser les bases d'un nouveau gouvernement dirigé par le social-démocrate Bohuslav Sobotka et dont la composition devrait être bientôt dévoilée. Nous nous intéresserons ensuite à une nouvelle réglementation européenne qui oblige, depuis le 1er janvier, les producteurs agroalimentaires tchèques à proposer des emballages de leurs produits plus lisibles. Enfin, la traditionnelle rubrique sportive de Guillaume Narguet, il vous propose aujourd'hui une rediffusion d'un reportage diffusé l'année dernière sur la course de fond la plus populaire de République tchèque, dont le déroulement est cette année menacé par manque de neige. En 2013, 9 Français avaient pris le départ de l'événement. Guillaume Narguet les avait interviewés. Bonne écoute à tous et à toutes. Les représentants de la social-démocratie, du mouvement de l'action des citoyens mécontents et du parti chrétien-démocrate ont signé ce lundi leur accord de coalition. Négocié depuis les élections législatives anticipées d'octobre dernier, le document doit poser les bases de la politique de leur futur gouvernement. La balle est dans le camp du chef de l'État, Miloš Zeman, qui doit désormais nommer le leader social-démocrate Bohuslav Sobotka au poste de Premier ministre et dans sa suite l'intégralité du nouveau cabinet. Il est 14h passées de quelques minutes ce lundi dans une salle de la Chambre des députés quand Bohuslav Sobotka, l'entrepreneur et président du mouvement ANO Andrei Babiš et le chef des chrétiens démocrates Pavel Bielobradek, chacun secondé d'un homme lige, apposent leur signature sur le document fondateur du nouveau gouvernement qu'ils entendent former ensemble. Le leader social-démocrate s'est acquitté d'un petit discours introducteur alors que le cliquetis des appareils photo redoublait d'intensité. 72 jours après les élections législatives, nous pouvons annoncer que l'accord de coalition est prêt, dont une partie est consacrée au programme commun, c'est-à-dire au socle sur lequel s'inscrira le programme du prochain gouvernement. La coalition gouvernementale devrait, dans la continuité du gouvernement intérimaire de Jiří Rusnok, mettre un frein à la politique d'austérité économique que menait l'équipe de Petr Nečas jusqu'en juin dernier. L'accord signé ce lundi prévoit entre autres l'annulation de certains frais de santé et une augmentation du salaire minimum et des pensions de retraite. Les impôts ne devraient quant à eux pas évoluer avant 2015, une des conditions fixées par le mouvement ANO. L'accord de coalition contient également une annexe qui définit le partage des responsabilités. Quel parti pour occuper quel portefeuille ministériel dans le gouvernement en formation? À l'heure où sont écrites ces lignes, la composition exacte du gouvernement qui sera soumise à l'approbation du chef de l'État n'est pas encore connue. Les supputations vont toutefois bon train. Pour la social-démocratie, il est notamment question de Peter Kurtschall au travail aux affaires sociales, lui qui a déclaré réfléchir à la composition de son équipe et qui veut s'attacher à la lutte contre le chômage. Lubomir Zaoralek devrait prendre en main les affaires étrangères, Milan Chovanec l'intérieur. Sur les 17 membres supposés de ce nouveau cabinet, la parité ne semble pas avoir constitué une priorité, alors que seul le mouvement ANO présenterait des femmes à certains postes, notamment la juriste Helena Valkova à la justice. Son leader, Andrei Babiš, serait nommé quant à lui vice-premier ministre et prendrait la tête du ministère des Finances. La balle est désormais dans le camp du chef de l'État, Miloš Zeman, dont on attend qu'il nomme rapidement Bohuslav Sobotka premier ministre, malgré son animosité envers cet homme. On écoute le leader social-démocrate. Nous avons préparé une base de travail pour les étapes à venir qui sont désormais du ressort du président de la République et nous nous attendons à ce qu'il procède maintenant en accord avec la Constitution. « Les étiquetages des denrées alimentaires ne seront plus jamais les mêmes. Depuis le 1er janvier 2014 est entrée en vigueur une nouvelle réglementation européenne à laquelle les producteurs tchèques doivent se conformer bon gré mal gré. Les informations sur les emballages sont désormais plus nombreuses et la façon dont elles sont rédigées est plus lisible. Les lecteurs assidus d'emballages alimentaires l'auront noté, leur lisibilité laisse parfois à désirer avec leur caractère minuscule et une mise en page de différents corps de texte parfois audacieuses. Votée en juillet 2011 au Parlement européen, la nouvelle réglementation sur l'étiquetage et l'information des consommateurs s'applique progressivement depuis le début de cette année 2014 et les producteurs tchèques ont dû se préparer à ce changement non négligeable, comme l'illustre Pavel Barvik, le porte-parole de la brasserie Staropramen. Nous modifions les étiquetages d'environ 100 produits et en termes de chiffres, cela concerne 100 millions d'étiquettes. Il s'agit de respecter de nouvelles règles de lisibilité qui prennent en considération différents aspects de la police d'écriture. Leur taille minimale doit être de 1,2 mm, avec une exception pour les emballages de petite taille. Différentes informations viennent compléter obligatoirement celles existant déjà. Les allergènes sont désormais censés être indiqués de manière claire dans la liste des aliments composant le produit pour que le consommateur puisse les distinguer rapidement. Autre changement, l'indication du pays de provenance est étendu à certaines viandes telles que le mouton ou la volaille. Comme bien souvent quand il s'agit de produire une information plus pointue pour les citoyens, les industriels font preuve d'un enthousiasme mesuré. Ainsi, Yarmila Stoltsova, la porte-parole de la Chambre alimentaire, regrette que la nouvelle réglementation ne prenne pas en compte les modalités techniques de réalisation de certains étiquetages dont la surface n'est pas extensible. Une contrainte que les producteurs tchèques souhaitent contourner en examinant la possibilité de mettre en circulation des étiquetages détachables ou de supprimer certaines langues. La société agroalimentaire Hamé s'est tournée vers cette dernière option, ainsi que l'explique son porte-parole Petr Kopacz. Pour certaines étiquettes, nous avons été contraints d'en faire deux versions, l'une en tchèque, l'autre en slovaque. Il nous a été impossible de les réunir sur un seul emballage, comme cela a été le cas auparavant. Je ne pense pas que cela puisse avoir un quelconque impact sur le prix de nos produits. Cela a toutefois un coût. Pour Marta Faktorova de la société laitière Madeta, la conception et l'impression de nouvelles étiquettes est un processus qui peut durer jusqu'à 6 semaines et qui représente une somme de 100 000 à 150 000 couronnes, de 3 600 à 5 450 euros environ. Ce n'est pas négligeable pour les petites entreprises qui ne sont pas exemptées d'appliquer la nouvelle réglementation alors qu'une version antérieure du texte le prévoyait. Fin 2016, de nouvelles dispositions devraient à leur tour être appliquées concernant les règles de déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires. La Jizerska Padesatka, ou les 50 km des monts Jizera, est la course de ski de fond la plus populaire en République tchèque. Sa 47e édition, censée se dérouler le week-end prochain, est malheureusement sérieusement compromise pour des raisons météorologiques. La neige n'est pas au rendez-vous. Elle l'était l'an dernier et parmi les 4800 participants, limite maximale établie par les organisateurs de cette épreuve longue distance traditionnellement disputée en style classique, figuraient 9 Français, dont 5 membres du même club, l'US Autran. Venus tout spécialement pour l'occasion depuis leur beau massif du Vercors, Guillaume Narguet les avait rencontrés à Prague le lendemain de la course. À la descente de leur lit, certains avaient encore un peu mal aux jambes et aux bras, mais tous étaient repartis de République tchèque et des monts Jizera avec de bons et même de très bons souvenirs plein la tête. Ce reportage de Guillaume Narguet est une rediffusion du 14 janvier 2013.
Sport en République tchèque.
Alors bonjour, moi c'est Wilfried Valette, Willy, je suis entraîneur à l'année en fait, moi de ski de fond sur le Vercors. Et ben hier j'ai J'ai pu me faire plaisir sur les skis puisque la neige était dans d'excellentes, enfin, la piste était en excellentes conditions, super neige. Mais c'était un peu dur parce que maintenant on fait ça pour le loisir avant tout, quoi. Donc hier, ben moi j'ai fini 445e, voilà, au milieu de la masse, c'était très très sympa. Et on s'est perdu très rapidement au départ parce qu'il y a du monde, mais sinon avec Christophe qui fait du ski très régulièrement avec moi, et Guy, on aurait pu très facilement faire beaucoup de kilomètres ensemble parce que c'était une très bonne ambiance et personne ne se marchait sur les skis.
Votre temps ?
3h15 je crois, quelque chose comme ça.
Satisfait ?
Oui, très satisfait, oui, oui bien sûr. Satisfait parce qu'après on s'est un peu raté au fartage, c'était moi qui en étais le responsable parce qu'ils avaient annoncé de la neige comme il neige là et donc on pensait une neige plus humide, moins glissante et donc on a mis un peu trop accrochant donc on n'a pas reculé ça c'est sûr mais ça glissait moins que ce qu'on aurait espéré. D'accord. Voilà.
Christophe Bertrand, donc moi je fais partie du groupe et c'est avec plaisir donc qu'on a organisé ce déplacement en Tchéquie. Pour ce qui est de ma course, je dirais que je m'en suis bien sorti. J'ai eu mal au dos la veille et donc j'avais des inquiétudes pour courir. Et puis finalement, la magie de la chimie et du ski de fond font que la journée s'est très bien passée, bien mieux que je l'imaginais. Je dois être dans les 800e en 4h moins le quart ou quelque chose comme ça. Et bon, je dois dire que le résultat est passé un peu au deuxième plan. L'ambition, c'était de passer une bonne journée. Et de ce côté-là, je n'ai pas été déçu. Les paysages sont magnifiques. Les gens sont très agréables. C'est très fair-play par rapport à d'autres courses qu'on a pu faire. Il n'y a pas de bousculade et puis surtout pas du tout d'agressivité. C'est vraiment très, très bon enfant. Tout le monde participe, les champions et les moins champions. Donc, excellente expérience.
Christophe Tixier, c'est ma première course en classique, donc j'ai suivi les amis parce que d'habitude c'est plutôt du skating, et puis bah, finalement ça s'est assez bien passé, surtout on a eu des conditions superbes, un temps magnifique, des très beaux paysages, le temps je crois qu'il doit être de 3h50 et bah, je me suis fait bien plaisir aussi, je trouvais que l'ambiance à l'arrivée notamment était aussi exceptionnelle et dans une très sensation de détente, voilà, passé une très bonne journée.
Dit Forestier, pour ce qui me concerne, je suis celui qui a le plus profité du paysage, vu que bon, j'ai eu une petite fringale, et, avec les problèmes de fartage qui se sont greffés là-dessus, j'ai dû mettre 5h08, voilà, donc voilà, j'ai bien profité de tout cela, et effectivement dans une bonne ambiance, c'était vraiment très agréable de faire cette course, malgré les souffrances, parce qu'en fait, il faut arriver jusqu'au bout, et c'est pas toujours facile. Bon, tout ça, c'est oublié. Ce qui nous reste, c'est cette ambiance merveilleuse et puis ces beaux paysages nordiques, comme sur une carte postale, quoi. Et avec ce beau temps qui est arrivé pile pour la course.
Bonjour, Philippe Battu. Bon, ben, moi, un petit peu pareil. J'avais fait du classique il y a une vingtaine d'années. Et quand Christophe m'a proposé de me joindre au groupe pour faire cette course en classique, ça m'a tout de suite tenté. Un pays nouveau que je ne connaissais pas du tout, là. Et j'ai vraiment retrouvé l'ambiance de ski de fond d'il y a 20 ans dans le Jura, et avec des paysages fabuleux. Bon, là, on a eu de la chance d'avoir une neige très douce, abondante, et surtout un paysage fantastique. Ça me rappelle un petit peu le Jura suisse, si je peux comparer, avec des fermes un peu isolées, étendues, ces petites des sapins assez bas, un peu comme des épinettes. Là. Ouais, j'ai adoré ce paysage, là. Donc j'en ai bien profité. Bon, j'ai mis un temps de 4h20, donc je reste. Mais bon, je venais surtout pour cette ambiance de course, et puis pour refaire un peu ce style classique. C'est vrai qu'en France, ça se perd vraiment de plus en plus, hein. Le skating c'est quand même autre chose, mais le classique reste quand même une référence dans la pratique du ski de fond. Voilà, et bon, ben, l'ambiance de la course, ouais, très très sympathique, de très bonne organisation. Voilà, bon, ça rappelle vraiment les courses d'antan, comme le Vercors à l'époque qui se faisait également en classique. Voilà. Donc c'est expérience à renouveler.
Et que saviez-vous de cette course et de la région de Bohême du Nord, de ces monts Izerske avant de venir ?
La course, c'est une course assez réputée, elle est recherchée, c'est une des rares courses qui fait le plein de ses participants avant la fin. Donc là, les 5000 participants sont inscrits un mois avant la tenue de la course, c'est pas très fréquent. Donc la course a une réputation importante, on sait qu'il y a une grosse participation, une bonne ambiance. Par contre, sur le relief, moi, je venais découvrir, j'avais pas de connaissances, pas d'idées. Bon, il y a aussi ce plaisir de la découverte, en Europe centrale. C'est un pays où on sait que le ski de fond est très suivi, très apprécié. Donc, moi, j'avais entendu parler de l'ambiance, mais sur ce qui est des paysages, je connaissais pas. Et c'est pareil, j'étais quand même assez bluffé par le. Bon, sous la neige, tout est beau, mais là particulièrement, oui.
Alors, cette année, c'était la République tchèque, c'était ces 50 km des monts Izerské. Mais vous êtes un peu comme des marathoniens qui, chaque saison, chaque année, choisissent une ville, un pays différent, une course différente. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette course tchèque par rapport aux autres auxquelles vous avez participé dans d'autres pays?
C'est le côté Europe centrale où on sait qu'ils sont fans de classiques, donc on sait que les pistes sont bien préparées, et ça, c'est le cas. Parce que sur des chemins qui ne sont pas très larges au départ, eh bien, faire engouffrer 5000 personnes, c'est une belle organisation dans un champ qui n'est pas immense au départ. Bon, voilà. Donc, ils aiment le classique, le relief s'y prête. Après, nous, on est toujours surpris parce qu'on a des montagnes un peu plus accidentées et on s'attend plus à du relief. Donc, un peu moins de relief ici, donc plus de poussée. Alors, ce qui dit classique, ce qu'on appelle la poussée simultanée, la double poussée, comme ils disent. Des neiges froides aussi, donc ça c'est ce qu'on aime, qu'on n'a pas beaucoup chez nous, ça change souvent. Ici la neige elle reste assez stable et c'est agréable pour le classique, c'est indispensable même parce que ça évite de changer le fartage sans arrêt. C'est peut-être aussi pour ça que chez nous on perd un petit peu cette technique. C'est que là, dès qu'on va dans le nord, on sait que la neige restera plus stable sur toute la journée et on se fait plaisir avec le même fart.
Comment se prépare-t-on pour une telle course? Alors vous êtes plusieurs à avoir évoqué ce style classique. Est-ce que c'est quelque chose qui pose un peu problème dans la préparation ou faut-il s'adapter, se préparer différemment?
Alors déjà c'est vrai que c'est bien parce que tout le monde a participé et est allé au bout. C'est jamais évident parce que la neige n'était pas glissante, pas très glissante. Donc il faut déjà avoir une bonne endurance évidemment en faisant de la pratique régulière de l'endurance. Donc par d'autres sports, c'est le cas de tous là, donc ça c'est bien. Après pour le classique, eh bien, effectivement le geste il est quand même particulier. Chapeau à ceux qui faisaient leur première course d'ailleurs, parce que il y a certains muscles qui se sont réveillés et qui ont montré qu'ils existaient, je pense, à tous, parce qu'il faut le geste n'est pas tout à fait le même. Donc en France, eh ben, des sorties régulières, on a un domaine qui s'y prête. Il y a beaucoup de domaines tout autour de Grenoble d'où on vient et qui sont superbes, mais même s'ils sont moins connus. Moins connu, je parle des Coupes du Monde, c'est très connu au niveau international, mais moins connu pour le très haut niveau. Et puis l'été, ben, beaucoup d'entre nous pratiquent régulièrement le ski à roulette. Donc ça, c'est un bon moyen pour entretenir le geste et la force spécifique utilisée en ski de fond.
Combien de temps faut-il pour se préparer à un 50 km comme celui-ci? Peut-on comparer l'effort? Par exemple, un marathon pour la course à pied, on sait qu'il faut au moins 3 mois. C'est pareil pour le ski de fond.
Je crois que cette année, on a eu beaucoup de chance autour de Grenoble. Dès la Toussaint, on a pu avoir un bon enneigement. La période de la semaine des vacances de Toussaint était vraiment bien enneigée dans le Vercors. On a tout de suite pu en faire. Moi, ça m'a vraiment enlevé une grosse épine du pied. On a pu faire quelques belles sorties de classiques. C'est vrai que si on attaque une course de 50 km sans préparation spécifique, je crois qu'on fatigue vite. Bon. Enfin, moi, à mon niveau, qui suis quand même vraiment dans les moyens, j'ai intérêt à avoir fait quelques kilomètres avant. Donc là, ça a été vraiment de la chance d'avoir pu skier en début de saison. Donc on a pu faire 4-5 sorties de classique pour se préparer un peu. Voilà. Après, c'est vrai que ceux qui veulent faire un temps vraiment supérieur, il y a intérêt à faire d'autres préparations spécifiques, tel le ski roule. Vraiment spécifique au niveau des bras. Moi je sais que j'ai quand même souffert là dans les faux plats descendants. J'ai très peu de bras et bon, ben là j'en ai bavé. Hein. Là, je peux le dire. J'ai eu quelques kilomètres. Bon, après, voilà, on arrive quand même au bout. Mais...
Et le reste de l'année, quand on peut pas skier, c'est quoi? C'est vélo, c'est voilà. Course à pied?
Oui, ben là dans la région, voilà, on a de la chance. Bon, vélo, course à pied, bon, on fait tous un peu de montagne. Donc on a quand même un fond d'endurance, heureusement, qui nous donne un peu les bases. Hein, voilà, ça je crois que c'est. Mais après, le ski de fond reste quand même vraiment spécifique dans le mouvement, enfin, surtout le classique. Hein, donc il ne faut pas dire j'ai fait 1000 km en vélo, donc ça va bien aller. Non, je crois qu'il faut vraiment avoir fait quand même du ski avant une course pareille. Et puis bon, s'être un petit peu préparé physiquement les mois précédents.
Enfin, peut-être dernière chose, comment expliquez-vous cette faible participation française? Vous étiez les seuls cette année, même si la tradition n'est pas en France du ski de fond, n'est pas celle qui peut exister dans d'autres pays où la pratique n'est pas la même. Mais bon, il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup de Russes. Et pourquoi donc très peu de Français? Comment l'expliquer?
Oui, déjà, il y a le style classique qui est très peu pratiqué chez nous. Les gens, les Français pensent au ski de fond, c'est le skating. Et donc là, c'était donc le style classique, ce qui élimine pas mal de participants. D'autre part, c'est une course qui se passe très tôt dans la saison. Donc ça, c'est un fait. C'est un handicap aussi pour cette course depuis la France. On n'est pas très loin des fêtes de Noël, on s'est un petit peu relâché. Voilà, penser faire un 50 km dans la foulée, c'est un petit peu difficile. Et puis, bon, il y a l'éloignement, bien sûr. Hein, ouais, la langue, il peut y avoir quelques barrières, quoi, on n'est jamais tout à fait perdu. Voilà, je crois que c'est surtout la spécificité du style classique, la date en début du calendrier. Sinon, il y a d'autres courses qui se font dans des pays un peu plus proches, que ce soit en Italie, en Suisse, et qui sont, surtout en Suisse, en skating. Donc là, il y a un plus grand recrutement, quoi. Et peut-être aussi que les Français sont un peu casaniers de ce côté-là, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a été étonnés de savoir que nous n'étions que 6 Français au départ. Alors que, comme vous le disiez, les Italiens sont beaucoup mieux représentés. Mais les Italiens, je pense, se mettent plus au classique et puis sont peut-être plus curieux.
C'est avec cette rediffusion de notre rubrique sportive du 14 janvier 2013 de Guillaume Narguet que s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté avec un grand plaisir par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy!